Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à notre petit rendez-vous du dimanche matin. Alors nous approchons de la rentrée, pour certains elle est déjà faite et c'est vrai que les problèmes de l'école, de l'enseignement en général concernent beaucoup de monde en Nouvelle-Calédonie, que ce soit les familles, les enseignants. Et donc nous avons le plaisir d'en parler avec le père Petitclerc. Père, bonjour.
Bonjour.
Alors, parmi les tâches auxquelles vous vous attelez, vous avez mené une réflexion sur la pédagogie dans les établissements, en cherchant peut-être un peu les causes de ce désarroi à la fois des enseignants et des élèves. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, j'aime dire qu'il est plus difficile, d'éduquer, d'enseigner dans une société en mutation que dans une société beaucoup plus stable. Parce que les perspectives sont plus floues et parce que la société ne paraît plus tout à fait unanime sur des valeurs communes. Et combien et l'enseignant est parfois un peu désarçonné par les nouveaux comportements de ses élèves. Et les élèves, eux, sont parfois un peu paniqués par la difficulté qui est leur de pouvoir se projeter dans l'avenir. Alors, vous savez, pour moi, le mot-clé, et je le retiens bien sûr de l'héritage de Don Bosco, c'est le mot de confiance. On ne peut éduquer que dans la confiance. Établir une relation de confiance avec le jeune, mais aussi avoir confiance en l'avenir, puisqu'on éduque toujours aujourd'hui pour demain. Et j'aime dire que la confiance, c'est un moteur à trois temps. Parce que toutes ces années d'expérience d'éducateur m'ont fait découvrir que le jeune qui spontanément a peu confiance en l'adulte est toujours un jeune qui a très peu confiance en lui. Quand on n'a pas confiance en soi, il est difficile de faire confiance à l'autre. Et donc, je pense que la relation éducative, elle se construit autour de ces trois clés. Il s'agit que l'éducateur sache faire confiance. Ce qui veut dire ne jamais réduire l'enfant, l'adolescent, à ses comportements ou ses performances de l'aujourd'hui. Moi, j'utilise jamais le mot délinquant pour qualifier un jeune. Parce que c'est quoi un jeune délinquant? D'après le dictionnaire, c'est un jeune qui a commis un délit. Mais très vite, dans la tête des gens, ça devient un jeune, non pas est délinquant parce qu'il a commis un délit, mais commet un délit parce qu'il est délinquant. Et on va faire des délinquants une sorte de catégorie jeune dont la caractéristique serait de produire du délit. Moi, ma posture d'éducateur consiste à dire aux jeunes, tu as commis un délit. Bon, ça, c'est un fait. Mais pour moi, tu n'es pas délinquant. Ben, pourquoi je me mets en colère après toi? Ben, pourquoi je te sanctionne? De même, il est complètement différent de dire à un enfant, ta copie est nulle ou t'es nul. On ne dit pas du tout la même chose. Dans le premier cas, on parle d'une performance. Dans le second, on émet un jugement sur la personne. Et vous savez que les enfants qui souffrent le plus à l'école sont ceux qui ont eu la malchance de rencontrer à l'école des enseignants qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne. C'est terrible le tort que font ces gens-là. J'aimerais dire que, à l'école, on ne devrait jamais parler en termes de bons et de mauvais élèves. L'élève, c'est une personne. Parlons en termes de bonnes et de mauvaises copies, d'apprentissage réussi ou d'apprentissage en cours de réalisation. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est, il s'agit de permettre à l'enfant de prendre confiance en lui. Et là, on ne peut y arriver qu'en l'aidant à mémoriser de la réussite. Car c'est en mémorisant de la réussite qu'on prend confiance en sa capacité de réussir. Or là, on a une culture scolaire qui nous vient de métropole, qui, au lieu de mettre l'accent sur ce que l'enfant sait faire, a beaucoup plus tendance à mettre l'accent sur ce qui manque à l'enfant pour être au niveau attendu. Combien il me paraît important, alors c'était une des grandes lignes fortes de la pédagogie de Don Bosco, de toujours s'intéresser à la progression de l'enfant, à ses savoirs, à l'enrichissement de ses savoirs. Et enfin, troisième clé, il faut que l'enfant soit en capacité de faire confiance à l'adulte, ce qui nécessite qu'il soit crédible. Car on ne peut faire confiance qu'à quelqu'un qui est crédible. D'ailleurs, j'aime souvent dire que, pour moi, le fondement de l'autorité, c'est la crédibilité. Vous savez, je distingue ces deux notions que sont celles de pouvoir et d'autorité. Le pouvoir, je le reçois de l'institution. L'autorité, si j'y réfléchis bien, je la reçois de celles et ceux auprès de qui je l'exerce. Deux enseignants dans un collège ont même pouvoir, même délégation du chef d'établissement pour assurer la discipline du groupe classe. Ils n'ont pas la même autorité, parce que l'autorité, ils la reçoivent des élèves. Et il me semble qu'avec l'évolution de la société moderne, avec la crise de confiance dans les grandes institutions, une position de pouvoir ne confère plus de manière systématique une position d'autorité. Et que l'autorité va beaucoup plus se fonder sur cette crédibilité de l'adulte. Ce dont les ados et les enfants d'aujourd'hui ont besoin, c'est de rencontrer des adultes crédibles Et vous savez que la source de la crédibilité, c'est la cohérence entre le dire et le faire. Le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, ça ne marche plus en éducation. Ça a eu marché, comme disait Fernand Reynaud, à une époque où on ne mettait pas en cause les institutions. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Combien il est important que nos enfants, nos adolescents, rencontrent des adultes en qui ils puissent avoir confiance.
Et que diriez-vous à des enseignants, des éducateurs, des animateurs qui sont confrontés au problème de la violence ?
Avant d'élaborer une réponse, il est indispensable de comprendre le cheminement qui peut amener l'enfant, l'adolescent, à adopter ce comportement marqué par la violence. Vous savez, le fil rouge de ma pratique éducative, c'est d'être convaincu que quel que puisse être le comportement d'un jeune, celui-ci a toujours ses raisons de l'adopter. Je ne dis pas qu'il a raison, il peut avoir tort. Il se fait du mal, il fait du mal aux autres. Mais il a toujours ses raisons. Et il revient à l'éducateur d'effectuer ce chemin d'appréhension de ses raisons s'il veut porter une réponse pertinente. Alors, il y a trois types de raisons qui peuvent pousser un enfant, un adolescent à être violent et qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. La violence peut être le mode d'expression d'une souffrance. Derrière le plus violent se cache souvent le plus souffrant. L'enfant, l'adolescent, va utiliser la violence comme une sorte de langage en axe pour exprimer son mal-être. Et il s'agit le plus souvent d'enfants, d'adolescents qui disposent de peu d'autres moyens pour pouvoir exprimer son mal-être, qui ont énormément de mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Alors, on voit la réponse à apporter, c'est développer l'écoute. On fait reculer la violence en développant l'écoute. Et c'est favoriser tous les moyens d'expression. Jean Bosco aimait dire, chaque fois qu'on permet à un enfant de mettre des mots, de mettre des sons, de mettre des couleurs, de mettre des gestes sur ce qu'il ressent, on fait reculer la violence. La violence peut être aussi un mode d'affirmation de soi. J'existe, vous êtes obligé de tenir compte de moi. Et les études récentes montrent qu'il y a toujours une corrélation entre le niveau de violence d'un enfant, d'un adolescent, et sa très faible estime de lui-même. Vous savez, l'enfant qui arrive à penser que la seule manière de se prouver qu'il existe, c'est d'écraser l'autre, est toujours un enfant qui est à la peine pour se faire reconnaître par ses qualités et par ses talents. D'ailleurs, la quasi-totalité des faits de violence à l'école sont le fait d'enfants qui réussissent pas à l'école. Le gamin qui réussit à l'école, il est suffisamment gratifié par l'institution. Mais celui qui va être réputé nul en histoire, en géo, en maths, en français, la seule manière d'exister, ce sera de faire peur au chouchou de la maîtresse sur la cour de récré. Donc là, faire reculer la violence, c'est être attentif à la construction de l'estime de soi du jeune, à chercher toujours tout ce qui peut le valoriser, à essayer de lui permettre de se sentir reconnu. Car lorsqu'un enfant se sentira reconnu, il n'aura plus besoin de faire recours à la violence pour se prouver qu'il existe. Enfin, la violence peut être aussi un mode d'action qui va permettre à l'enfant, à l'adolescent, d'obtenir des choses. Je pense aux raquettes ou d'obtenir du pouvoir. Je pense au Qaïda. Alors là, il n'est pas d'autre réponse que d'interdire ce type de violence et de la sanctionner fermement. Mais j'utilise à dessein le mot de sanction et pas celui de punition. Parce que c'est très différent sanctionner et punir. Quelle est la différence ? C'est que je sanctionne un acte alors que je punis une personne. Pour moi, la sanction fait partie de l'éducation à la responsabilité. Permettre aux jeunes d'assumer les conséquences de son acte. Alors que dans la punition, il y a toujours un aspect un peu humiliant de rabaissement du jeune qui malheureusement peut contribuer à la dégradation de son estime de soi, et on sait qu'une telle dégradation peut signifier la réitération des comportements marqués par la violence.
Malheureusement, le temps passe très vite et on aimerait continuer longtemps ce débat, enfin cette conversation, qui va bien sûr beaucoup aider à la fois les enseignants, les parents et tous. Et avant de vous quitter, pourriez-vous leur donner à tous un message d'encouragement, d'espérance, puisque c'est un mot que vous aimez bien aussi.
Oui, pour Jean Bosco, la relation éducative doit toujours être une déclinaison du croire, espérer, aimer. Vous savez, Jean-Paul II disait à Jean Bosco, c'est celui qui a le mieux compris la portée du verset « Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille ». C'est-à-dire l'invitation à nouer une relation à l'enfant dans le même registre que celle que noue à Christ. Je crois en toi, je te fais confiance, je me fie à toi, j'espère avec toi, ensemble on va construire un monde plus juste, plus fraternel, et puis je t'aime comme tu es, non pas comme je voudrais que tu sois, c'est-à-dire comme le Christ t'aime.
Merci beaucoup, Père Féticlère. J'ai failli dire Père Pouscou. Et merci aussi à vous. Et très bonne rentrée à tous. Très bonne année scolaire à tous ceux qui sont concernés. Et il y en a beaucoup. Et rendez-vous dimanche prochain.